Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, et nous aussi on retourne à l'école puisqu'on va redessiner les frontières, en tout cas échanger les populations serbes du nord du Kosovo et leur territoire contre une pleine reconnaissance par la Serbie. C'est ce que serait prête à faire leur chef d'État avant une réunion à Bruxelles. L'Union Européenne s'en inquiète. Bonjour Jean-Arnaud de Reims. Merci d'être au téléphone. Vous êtes le rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Alors, un troc territorial dans une zone déchirée par les conflits. La rumeur qui enfle sera clarifiée donc vendredi à Bruxelles par les présidents Aleksandar Vučić et Hashim Thaçi. Les observateurs sur place et l'Union européenne y voient eux un précédent dangereux puisqu'à l'échelle des Balkans, voire de l'Union actuelle, ce serait ouvrir, comme le disait une ministre autrichienne, la boîte de Pandore des revendications territoriales sur base ethnique. Depuis quelques mois, pourtant, l'idée est présentée par les dirigeants comme le moyen de conclure la normalisation des relations lancées en 2013, qui doit aboutir à la reconnaissance des deux États. C'est la condition d'une éventuelle adhésion à l'Union européenne, et on sait que les partenaires, notamment les États-Unis, s'impatientent. Mais pour conclure, les dirigeants vont-ils prendre le risque d'un réveil des nationalismes en Bosnie ou même en Serbie? La solution est radicale. Y a-t-il un jeu diplomatique à plusieurs bandes, un coup de bluff ou une solution paradoxale? La première remarque en tout cas qu'on peut faire, Jean-Arnaud de Reims, c'est que c'est un dialogue de 5 ans qui a repris en juin. On a vraiment l'impression que les dirigeants Thaçi et Vučić sont pressés de conclure.
Oui, et c'est ça, je dirais, le plus surprenant. Le Kosovo a proclamé son indépendance il y a déjà un peu plus de 10 ans, en février 2008. Ce dialogue de normalisation entre le Kosovo et la Serbie se poursuit depuis des années à Bruxelles. Des accords ont été signés, notamment un accord très important sur la création d'une association des communes serbes du nord du Kosovo qui a été signée, il faut le rappeler, il y a exactement 3 ans, à la fin août 2015, et qui n'a toujours pas connu le moindre petit début d'application. Alors la question, c'est bien évidemment pourquoi, depuis le milieu de l'été, depuis le début du mois d'août, Vučić et Thaçi se sont-ils mis à parler d'un accord final, alors que depuis des années, ils ne sont pas capables de s'entendre sur rien? Pourquoi faudrait-il brusquement conclure au plus vite un accord final, en sachant que cet accord final supposerait des aménagements, des corrections frontalières, ce qui a effectivement, comme vous le soulignez, toujours représenté un tabou absolu dans la gestion des équilibres politiques dans les Balkans. Tout cela est extrêmement surprenant et on ne peut bien sûr que faire des hypothèses. Alors, rappelons tout de même qu'au début de l'année 2018, il y a donc 7-8 mois encore...
Avant, pardonnez-moi qu'on en vienne à la question pourquoi, simplement qu'on se rende bien compte de quoi il s'agit. L'un des litiges européens les plus compliqués, si ce n'est le plus compliqué, disait Federica Mogherini, c'est quelques centaines de kilomètres carrés dans le nord du Kosovo, le sud de la Serbie, avec des populations mêlées, c'est un peu ça?
Oui, alors c'est pas du tout le problème le plus compliqué d'Europe. Je pense que la question du Sud-Tirol entre l'Italie et l'Autriche est autrement plus compliquée, pour ne pas parler du Pays Basque ou de la Catalogne partagée entre la France et l'Espagne. Non, ce n'est pas du tout le problème le plus compliqué. Je m'inscris totalement en faux contre cette idée-là. La seule réalité, c'est qu'il y a effectivement un problème politique d'exercice de la souveraineté de Pristina sur le Kosovo et en contrepartie de garantie des droits de toutes les communautés, notamment de la communauté serbe qui vit au Kosovo. Ça, ce sont les données de base, mais pour le coup, la situation est infiniment plus simple même que dans la Bosnie-Herzégovine voisine, où il y a tout de même eu une guerre qui a provoqué beaucoup plus de morts qu'au Kosovo. Donc il faut relativiser le problème. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette question du sud, du nord du Kosovo n'est pas réglée parce qu'elle fait le jeu des nationalistes des deux camps, serbes et albanais, qui surexploitent politiquement cette question depuis des années. Mais en soi, la question n'est même pas très compliquée et n'est pas une très grande menace pour les équilibres européens.
Et alors précisément, vous évoquiez, quand je vous ai interrompu, ce début d'année 2018 qui avait commencé avec des tensions, des inquiétudes sur des réveils nationalistes, puisqu'il y avait eu notamment cet assassinat d'Oliver Ivanovic, un leader de la liste serbe au Kosovo, moment où Belgrade avait rompu le dialogue bilatéral bilatérale tout de même.
Oui, alors on ne sait toujours pas qui a assassiné Oliver Ivanovitch, qui était en tout cas le seul opposant serbe au Kosovo à s'opposer au régime de M. Vučić à Belgrade. Il faut le rappeler, donc on ne sait toujours
Président
pas
Vucic.
Qui a assassiné Oliver Ivanovitch et pour l'instant aucune enquête sérieuse n'est menée. Mais le plus important, c'est qu'en ce début d'année 2018, on parlait beaucoup des inculpations présentées comme imminentes du nouveau tribunal international pour les crimes attribués à l'ancienne guérilla albanaise au Kosovo, les crimes de Luceka. D'après toutes les sources diplomatiques, des inculpations étaient attendues pour le printemps et auraient dû frapper les plus hauts responsables politiques du Kosovo, à commencer par M. Saatchi. Il se trouve que le procureur américain de ce tribunal, David Schwendiman, son mandat n'a pas été renouvelé par l'administration américaine et brusquement, Hashim Saatchi s'est lancé dans l'idée qu'il fallait à tout prix trouver une solution très rapidement à la question du Kosovo. On a un petit peu l'impression que cette agitation diplomatique, sûrement très hypocrite, a aussi pour but de masquer la volonté politique de ne pas faire fonctionner ce tribunal qui pourtant existe et qui attend toujours d'entrer en service à La Haye. Je crois que c'est ça le fond du problème.
Donc on aurait affaire, si je vous suis bien, à disons une fuite du dirigeant plutôt à Hashim Thaçi face à ces pressions judiciaires plutôt que à une pression extérieure qui aurait poussé, on va dire, les dirigeants à s'entendre coûte que coûte.
Non, je crois qu'effectivement, Hashim Saatchi a le choix entre deux options, la prison ou essayer d'avoir le prix Nobel de la paix. Comme il n'a pas envie d'aller en prison, il préfère essayer de se positionner comme l'homme qui va régler un conflit gelé, etc. Et le problème, c'est que dans cette opération de poudre aux yeux, il a le soutien, de manière assez évidente, d'une partie au moins de l'administration américaine. Et pour le coup, cette stratégie-là, comme vous le disiez, pourrait avoir les plus terribles conséquences pour les Balkans, bien évidemment, mais même peut-être plus largement pour l'Europe tout entière.
Ça veut dire que quand vous dites pression américaine, il y a donc aussi quand même une réalité et un certain statut à ces négociations, parce qu'on a pas mal parlé de négociations assez anciennes ou secrètes plutôt l'année dernière entre Vučić et Thaçi qui s'étaient passées aux États-Unis pour partie. Mais il y a donc une possibilité qu'effectivement cet échange territorial soit décidé.
Alors non, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, si on s'en tient à ce qui est pour le coup est public, du côté de l'administration américaine, il y a eu plusieurs séries de déclarations disant que les États-Unis d'Amérique n'avaient rien contre l'hypothèse d'un changement territorial, tandis que du côté européen, on est au contraire très conscient des risques énormes qu'une telle option ferait peser, notamment du côté allemand et autrichien. Donc voilà, là pour le coup, il y a clairement un hiatus entre les positions des États-Unis et celles de l'Europe, du moins si l'on s'en tient à ce qui est public. Ce qui est secret, ma foi, je n'en sais rien.
Et de ce point de vue-là, alors, quelle marge de manœuvre auraient les deux leaders, et notamment Hashim Thaçi, dont on sait que sa position est très contestée au Kosovo. Le Premier ministre Ramush Haradinaj a dit, pour moi, la partition, c'est la guerre, et puis en même temps, position qui inquiète énormément l'Union européenne à Vienne, il y a une semaine.
Oui, alors écoutez, cela, on verra bien. Effectivement, le gouvernement du Kosovo voudrait remettre en cause le cadre de ce dialogue qui est très antidémocratique, une sorte de face-à-face entre deux chefs d'État qui ne sont pas mandatés par des assemblées élues pour poursuivre un dialogue de ce type. Comme le disait un observateur important de la région il n'y a pas longtemps, on a vraiment l'impression de revenir à une époque que l'on pourrait croire révolue quand deux seigneurs se partagent des territoires et s'échangent des populations. On est quand même assez loin, disons, des règles de la diplomatie telles qu'on essaye de les pratiquer, je dirais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un premier problème. Donc on ne sait pas en réalité si Hashim Saatchi va pouvoir continuer à jouer ce cavalier seul ou ce face-à-face avec Vučić. Pour le reste, et je ne suis même pas sûr que les deux hommes vont se rencontrer de la façon prévue vendredi à Bruxelles. Il peut y avoir des surprises. En tout cas, ce jour-là, vendredi, il y a déjà des manifestations qui sont annoncées au Kosovo. Donc effectivement, la marge de manœuvre d'Hashim Saatchi est extrêmement limitée. Du côté d'Aleksandar Vučić, je crois que les choses sont encore plus incompréhensibles. En tout cas, j'ai encore plus de mal, moi, à comprendre quelle carte est en train de jouer Aleksandar Vučić, sauf celle qui est finalement un petit peu la tactique qu'il a apprise de son mentor, Slobodan Milošević, qui consiste à toujours faire beaucoup de bruit, à agiter beaucoup de choses pour être toujours au centre du jeu et pour empêcher les oppositions démocratiques de se cristalliser. Je pense qu'il y a probablement cela qui joue une pure stratégie politicienne du côté d'Aleksandar Vučić, en sachant tout de même qu'il joue sur des enjeux qui sont lourds et forts. D'une part, il y a une communauté serbe qui vit toujours au Kosovo. Il y a beaucoup de Serbes du Kosovo qui se sont enfuis au cours des 20 dernières années en Serbie. Cela représente des gens qui, en tout cas, n'ont pas envie d'être sacrifiés, et on le comprendra bien. Et puis, au-delà de ça, pour tous les Serbes, même les moins nationalistes, le Kosovo est quelque chose qui symboliquement est fort, avec lequel il est donc dangereux de jouer, je dirais, pour des raisons purement politiciennes. En sachant qu'en réalité, il y a une seule chose qui permettrait d'avancer, ça serait tout simplement que ce qui a déjà été signé soit appliqué. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y avait des habitants de la vallée de Preševo qui s'amusaient sur les idées d'échange de territoire en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On nous parle d'échange de territoire ?» alors que les accords signés à Bruxelles qui prévoient simplement la reconnaissance des diplômes universitaires ne sont toujours pas appliqués. Donc soyons un petit peu sérieux, commençons déjà par appliquer ce qui a déjà été signé.
Bon, et toute dernière chose rapidement, mais en admettant qu'il s'agisse alors d'un bluff des deux dirigeants, est-ce que c'est pas un peu trop tard quand même, en évoquant simplement la question, est-ce qu'ils n'ont pas ouvert, comme le disait la ministre autrichienne, la boîte de Pandore, vous parliez de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine, ou la Vojvodine au nord de la Serbie?
Alors je crois que la question de la Vojvodine ne se pose pas à court terme. Par contre, dans le cas de la Republika Srpska, oui, bien évidemment, tout ce qui peut se passer entre le Kosovo et la Serbie, et dès que l'on commence à parler de changer les cartes, les frontières, et que l'on sort les ciseaux, eh bien tout cela fait extrêmement plaisir à Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska, cette entité autonome serbe, sachant que Dodik rêve en permanence, ou revendique en permanence le droit à l'autodétermination de cette entité. De ce point de vue-là, ce qui se dit au Kosovo l'intéresse énormément, en sachant que le 7 octobre auront lieu des élections générales très importantes en Bosnie-Herzégovine.
Eh bien, on suivra. Merci beaucoup, Jean-Arnaud de Reims.